Culture, grand reportage.
Ariane 5 est un très gros lanceur et vous avez beaucoup de satellites institutionnels qui n'ont pas besoin de toute la puissance d'Ariane 5. Et Ariane 6 est 40% moins cher à produire et à mettre en œuvre qu'Ariane 5.
Le portique qui fait 7000 tonnes, donc il fait 90 mètres de haut et il circule sur 140 mètres. Donc c'est la tour Eiffel qui serait sur des roues et qui se déplacerait.
Si vous voulez, un lanceur, il faut entre 2 et 3 ans pour le construire et il sert pendant une demi-heure et ensuite ces différents éléments retombent dans l'eau. Donc on voit bien qu'il faudra trouver une façon pour réutiliser partiellement ou totalement un lanceur.
La fusée Ariane vient de fêter ses 40 ans. Le premier vol du lanceur européen avait lieu le 24 décembre 1979. Depuis, la famille Ariane a donné naissance à 5 versions de cette fusée, dont le dernier modèle, Ariane 6, haute de près de 70 mètres et pesant plus de 800 tonnes au décollage, doit s'élancer depuis Kourou en Guyane au second semestre de cette année. Où en est-on aujourd'hui sur le modèle industriel spatial européen après 250 missions réalisées par le programme Ariane et plus de 450 satellites placés sur orbite. Alors que de nouveaux acteurs, notamment SpaceX du milliardaire Elon Musk et sa fusée Falcon ont bouleversé cette course aux étoiles avec son lanceur réutilisable, SpaceX, dont l'ambition est de mettre en orbite une constellation de plusieurs milliers de petits satellites pour établir un Internet de l'espace haut débit et permettre une connexion efficace et peu chère pour les près de 4 milliards de terriens vivant dans des zones difficiles d'accès. Où en est l'Europe dans cette compétition scientifique, technologique et économique, alors que l'industrie spatiale européenne emploie 40 000 personnes, dont 16 000 en France. La fusée Ariane 6 promet une baisse des coûts de 40%. Nous verrons comment. C'est aussi un enjeu stratégique et géopolitique majeur qui se joue pour garantir l'indépendance spatiale européenne, alors que la Chine est devenue le premier pays pour le nombre de lancements, reléguant l'Europe à la troisième position derrière les États-Unis. Quelle place doit être donnée au financement public et privé dans cette guerre des étoiles? Nous allons remonter le fil de la production d'Ariane 6 à travers un grand reportage qui nous ouvrira les portes pour la première fois du BAL, le bâtiment d'assemblage final du lanceur européen en Guyane. Ariane 6, l'Europe spatiale contre-attaque, c'est un reportage signé Hakim Kasmi. Avec deux invités pour ce grand reportage, Frédéric Vidal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et bonsoir André Hubert-Roussel.
Bonsoir.
Vous êtes PDG d'Ariane Group, aux commandes de la future Ariane 6. Nous débattrons tout à l'heure des enjeux et des défis qui s'imposent à l'Europe dans cette bataille commerciale, stratégique et politique. Mais avant cela, notre grand reporter Hakim Kasmi nous fait vivre le dernier acte de cette aventure industrielle. Bonsoir Hakim.
Bonsoir Sophie Delban.
Vous avez exploré 3 sites majeurs de la construction de cette nouvelle fusée Ariane, en allant de la banlieue parisienne jusqu'à la Guyane, en passant par l'Allemagne.
Effectivement, nous commencerons notre visite tout d'abord au Mureau, c'est là qu'est pensée, qu'a été imaginée Ariane, mais c'est aussi là que est fait l'étage principal d'Ariane 5, mais désormais aussi d'Ariane 6. Nous verrons comment les méthodes de fabrication ont été changées pour réduire les coûts. Nous nous rendrons ensuite à Vernon, là où sont fabriqués les 2 moteurs d'Ariane. Puis nous partirons en Allemagne, à Brême précisément, au nord du pays, car Ariane comme Airbus est un projet européen pour voir quelle est la spécificité des différents pays, leurs spécialités. Et enfin, nous nous rendrons en Guyane, à Kourou, au CSG, le centre spatial guyanais. C'est de là que partent l'ensemble des lanceurs européens, à commencer bien sûr par Ariane 5 et bientôt Ariane 6. Et là aussi, nous verrons quelles sont les évolutions qui ont été mises en place avec notamment un nouveau pas de tir pour réduire les coûts d'Ariane 6.
Et nous partons tout de suite avec vous au cœur de l'industrie d'Ariane, au Mureau en banlieue parisienne, au nord-ouest de la capitale. C'est là qu'on fabrique l'étage principal de la fusée Ariane 6.
Bonjour monsieur.
Bonjour, Hakim Kasmi, Sculpture.
Franck Huban. Je suis le directeur des programmes de lanceurs chez Ariane Group. Bienvenue chez nous.
Avec vous, nous allons voir comment se prépare la future Ariane 6.
Exactement. On y va.
Bonjour.
Donc c'est un bâtiment très vaste où est produit l'étage principal d'Ariane 6, son étage principal cryotechnique. Et contrairement à Ariane 5, le montage se fait ici entièrement à l'horizontale, ce qui facilite considérablement les opérations pour les opérateurs et nous permet également d'atteindre des cadences de production plus élevées. on sera capable ici de produire jusqu'à 12 Ariane 6 par an, alors que les installations Ariane 5 étaient limitées à 7 ou 8 exceptionnellement par an.
Alors en quoi le fait de produire à l'horizontale et non plus à la verticale permet de réduire le délai ?
On s'est inspiré de toutes les bonnes pratiques de nos collègues dans le monde de l'aéronautique, puis de l'automobile également. Et le fait de produire à l'horizontale permet d'avoir une usine en flux pulsé. C'est-à-dire que les étages en cours de fabrication se déplacent d'un poste de travail à l'autre, toujours au même rythme et sans qu'il y ait jamais de goulot ou de zone d'attente dans la production. Donc on arrive ici dans une zone où on voit les viroles, les éléments qui vont être assemblés pour former les réservoirs d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide de l'étage principal d'Ariane 6. Alors nous sommes ici à côté d'une grande virole, d'un grand cylindre de 5,40 m de diamètre.
On peut le toucher ?
On peut le toucher.
Voilà. Alors, voilà.
On voit l'épaisseur qui est assez réduite.
Donc dans ce réservoir, on aura de l'oxygène liquide hein.
Alors on utilise les mêmes viroles à la fois pour le réservoir d'oxygène liquide et le réservoir d'hydrogène liquide, ce qui permet d'avoir une production plus efficace puisqu'on a un seul élément produit en plus grande quantité.
Alors on n'imagine pas qu'avec une épaisseur aussi fine, on puisse avoir des charges, des pressions, des vibrations aussi importantes que celles d'une fusée.
Exactement, des pressions et également des différences de température. Puisqu'à l'intérieur de ces réservoirs, on va avoir des ergols liquides, de l'oxygène liquide, mais surtout de l'hydrogène liquide, qui a une température assez proche du zéro absolu, alors qu'à l'extérieur, lorsqu'il sera en Guyane, on aura une température de 35 degrés, voire plus. Donc c'est à la fois un enjeu de tenue mécanique, mais aussi un enjeu d'isolation et de protection thermique. Et c'est aussi dans cette usine, dans la cellule suivante, en réalité, qu'on dépose sur le réservoir cette protection thermique qui va permettre d'avoir à l'intérieur un gaz liquéfié et à l'extérieur les conditions ambiantes.
Le zéro absolu qui correspond à moins 100 ?
Moins 273 degrés.
On imagine l'écart thermique qu'il peut avoir en Guyane.
Exactement.
Une réduction des coûts qui passe aussi par d'autres innovations comme la réalité augmentée qui a permis de réaliser l'intégralité d'Ariane 6 sur des maquettes numériques. Des maquettes accessibles en temps réel pour l'ensemble des partenaires français et européens. Une méthode inspirée de l'aéronautique. Mais au-delà de l'assemblage de l'étage principal, c'est aussi dans les bureaux d'études du site des Mureaux qu'a été pensée et imaginée Ariane 6. Alors nous sommes donc ici à Vernon, dans l'Eure, en Normandie, où sont fabriqués les moteurs d'Ariane 5, mais désormais celui d'Ariane 6, le moteur Vulcain 2.1, qui sera sur l'étage principal de la fusée, et le moteur Vinci, qui lui ira sur l'étage supérieur de la fusée Ariane 6. Des moteurs plus modernes, et surtout une véritable révolution ce qui concerne la compétitivité. Car pour réduire ses coûts de 40% sur Ariane 6, il a fallu réduire les coûts à tous les niveaux de la fusée, mais aussi au niveau des moteurs, c'est ce que nous allons voir, notamment avec des innovations comme l'impression 3D.
Bonjour, Philippe Girard, responsable des moteurs à ergol liquide d'Ariane au sein d'Ariane Group.
Et bien on est parti, on va voir avec vous ce qui a changé notamment dans les procédés de fabrication pour réduire les coûts d'Ariane 6, car on va le voir, ça se fait à tous les niveaux, sur le moteur, sur les étages principaux et supérieurs, il n'y a vraiment pas de petites économies.
Alors, pas de petites économies, c'est une vraie révolution, à la fois technique et industrielle. Révolution technique puisqu'on fait des changements de design de nos moteurs, dans notre façon de concevoir nos moteurs, mais aussi dans notre façon de les réaliser et de les assembler. Avec l'introduction de nouvelles techniques de réalisation, notamment l'impression 3D et des moyens de montage qui sont directement inspirés de l'aéronautique.
Eh bien, on est parti avec vous. Alors Philippe Girard, on vient de s'équiper, on a mis une blouse, des surchaussures. Pour quelle raison faut-il s'équiper avant d'entrer dans l'atelier où sont fabriqués les moteurs ?
Alors nos moteurs fonctionnent à l'hydrogène et à l'oxygène liquide. Donc toute pollution dans nos moteurs pourrait avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. Et donc on travaille en atmosphère contrôlée et l'assemblage de nos moteurs est fait dans une salle blanche de classe 100 000.
Parce que le moindre petit cheveu dans un moteur pourrait avoir des conséquences très graves.
Oui, en particulier s'il y a une pollution au niveau des plaques d'injection du moteur, de la chambre de combustion ou du générateur. Si on obstrue partiellement un injecteur, eh bien, on crée des points chauds dans nos organes de combustion et ça conduit de manière directe à la destruction du moteur. Alors là, nous sommes devant le moteur Vinci qui va équiper le premier lancement d'Ariane 6.
Donc on a le vrai moteur officiel, on n'est plus sur un moteur de test, c'est vraiment le moteur officiel qui sera sur la première Ariane 6 en exclusivité. Là.
Exactement, en exclusivité, le développement est fini, les essais de qualification sont terminés, on entre dans la phase de production série et vous avez le premier exemplaire devant vos yeux.
Alors, qu'est-ce qui change sur ce moteur ?
Alors la première chose qui change, c'est par rapport au moteur d'Ariane 5, c'est qu'il pousse beaucoup plus fort. Le moteur d'Ariane 5 d'étage supérieur pousse 7 tonnes, lui il pousse jusqu'à 18 tonnes. Ça autorise d'avoir plus de combustible, donc de mettre des charges plus importantes. Mais surtout, son principal atout, c'est sa capacité de rallumage.
Le rallumage, pourquoi est-ce très important sur une fusée comme Ariane 6 ?
Alors, Ariane 6 doit répondre aux besoins des clients. Les besoins des clients évoluent. Jusqu'à présent, le principal marché est un marché de télécommunications où on met un satellite sur une orbite dite géostationnaire. C'est une orbite. On part de l'équateur, on va sur une orbite. L'image que je prends souvent, c'est vous êtes dans une vallée. La vallée, c'est l'équateur. Et vous devez aller dans un refuge en montagne, sur un sommet, et vous y allez. Et Ariane 5 est parfaitement capable de le faire. Aujourd'hui, nos clients nous demandent, on voudrait aller de cette vallée toujours sur ce sommet, mais il y a d'autres sommets autour et on veut pouvoir desservir successivement différents refuges de montagne. Et donc, monter sur un sommet, ensuite s'arrêter, larguer une partie de la charge utile, desservir ce chalet, ravitailler ce chalet, ensuite laisser les forces de gravité descendre sans effort dans la vallée pour ensuite rallumer le moteur et aller desservir une autre destination.
Du coup, c'est aussi plus rentable pour vous d'un point de vue commercial.
Ah, ça permet surtout de capturer des parts de marché qui aujourd'hui ne sont pas accessibles par Ariane 5. Cette souplesse, et c'est peut-être une première dans le domaine du spatial, c'est que cette souplesse que l'on offre crée de nouveaux besoins parce que l'offre commence à créer de nouveaux besoins et de nouvelles idées auprès de nos clients.
Pour réduire ces coûts de 40%, les ingénieurs d'Ariane 6 ont eu recours également à l'impression en trois dimensions pour une partie des pièces, notamment pour ces deux moteurs, le Vulcain 2.1 qui est sur l'étage principal et le Vinci qui est sur l'étage supérieur d'Ariane 6, ce qui permet de réduire le poids de la fusée et les délais de fabrication. Stéphane Moser, le responsable de l'impression 3D sur le site de Vernon.
Donc, au sein de l'atelier, hein, on a mis en place trois îlots dédiés à la fabrication additive qui nous permet de réaliser donc des pièces avec ce qu'on appelle couramment des imprimantes 3D. Un îlot est spécifiquement dédié aux activités liées aux impressions de pièces plastiques et deux sont dédiés aux activités d'impression des pièces métalliques, pièces qui sont destinées sur nos moteurs cryogéniques.
Alors typiquement, là, on peut se mettre devant une imprimante et voir un peu celles qui sont en cours de fabrication.
Tout à fait. D'ailleurs, les machines sont en train de réaliser des pièces à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, on a pratiquement 10 références qui sont actuellement en cours d'industrialisation et qui sont destinées aux moteurs Vinci et Vulcain, qui sont deux moteurs qui intégreront le lanceur Ariane 6.
Alors, décrivez-nous un peu cette imprimante, ça ressemble un peu à une sorte de grande armoire. Un peu.
Tout à fait, une armoire, donc une machine automatique carénée avec une enceinte de fabrication qui comporte des lasers et ainsi que des poudres. Au contact du laser, les poudres viennent de se fusionner par couches et l'assemblage de couches vont former des pièces qui sont issues d'une maquette numérique qui ont été fabriquées justement par les bureaux d'études, qui ont intégré toutes les contraintes liées au procédé de réalisation, mais surtout à nos contraintes fonctionnelles, donc tous les besoins qui sont liés au moteur et aux pièces particulièrement.
Alors concrètement, grâce à ça, on met moins de temps à faire les pièces qu'avant.
On met moins de temps, ça nous coûte moins cher et les deux liés nous permettent justement d'avoir des leviers sur nos capacités et sur le coût de l'assemblage final.
Qu'est-ce qui fait que ça coûte moins cher ?
Un exemple en particulier, on a eu l'habitude sur des pièces depuis plusieurs dizaines d'années d'avoir des temps de cycle qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de mois pour obtenir une pièce à l'état de débauche. quand aujourd'hui, avec la fabrication additive, on diminue pratiquement par 4 les durées pour l'obtention de ce genre de pièces.
Nous quittons la France, direction Brême, au nord de l'Allemagne. Car Ariane, comme Airbus, est un projet européen avec 13 pays partenaires. Chaque pays ayant sa spécialité et son savoir-faire. Ici, on fabrique déjà l'étage supérieur d'Ariane 5 et désormais celui d'Ariane 6, sur lequel sera fixé le moteur Vinci. Comme sur le site français, les processus de fabrication ont été revus. Le montage se fait aussi à l'horizontale et l'automatisation des tâches est plus importante grâce à de nouveaux robots qui permettent d'avoir plus de précision ainsi que des chariots autonomes pour transporter les pièces dans l'usine, ce qui a permis de réduire les délais de conception mais aussi une partie des opérateurs. Pierre Godard, président d'Ariane Group en Allemagne.
Chaque État européen présent dans le programme Ariane 6 a en quelque sorte une spécialité afin d'éviter d'avoir des doublons industriels qui ne seraient pas efficaces pour un environnement économique compliqué avec une pression concurrentielle forte. Et nous avons besoin d'avoir un produit compétitif. Donc cela passe par une spécialisation des pays qui travaillent dans le produit Ariane 6.
C'est aussi comme ça qu'on réduit les coûts pour atteindre les 40% de réduction de coûts sur une Ariane 6 par rapport à Ariane 5 ?
C'est un des maillons, il y en a beaucoup. Un des maillons, effectivement, est une certaine spécialisation des industriels dans leur domaine d'excellence afin qu'ils puissent optimiser leurs procédés, leurs processus et baisser le coût de production tout en maintenant des cadences et la qualité qui est absolument nécessaire, ce qui nous permet ensuite d'obtenir des prix compétitifs sur le marché commercial et le marché institutionnel.
Alors vous avez beaucoup de sous-traitants, beaucoup de PME. On dit souvent que l'Allemagne est très bonne dans les PME. C'est une force ça aussi d'avoir des PME très compétitives ici en Allemagne.
L'Allemagne est un pays décentralisé effectivement avec de nombreuses entreprises PME de taille moyenne, petites et moyennes entreprises, qui sont performantes et qui sont extrêmement réactives sur le marché. La difficulté que nous avons, c'est dans un monde Ariane qui est de la technologie, de la haute technologie, avec des cadences relativement faibles, la difficulté que nous avons, c'est de trouver les partenaires industriels maîtrisant d'un côté les technologies qui sont absolument indispensables au succès d'Ariane 6, mais aussi acceptant des cadences qui sont relativement faibles si on compare par rapport à la spécialité de l'Allemagne, également l'industrie automobile. Nous parlons ici pour Ariane 6 d'une production de 12 Ariane par an. Ça n'a rien à voir avec la production industrielle automobile. Donc nous avons des demandes techniques extrêmement fortes avec des cadences assez faibles. Et donc nous cherchons dans le tissu industriel allemand les entreprises performantes, prêtes à s'investir dans ce métier et à rester à terme. Nous cherchons des partenaires pour le long terme. Nous ne faisons pas des changements réguliers de chaîne de sous-traitants parce que c'est trop compliqué. Il faut requalifier toute la chaîne et ça coûte au final trop cher.
Pour quelles raisons, en particulier chez Ariane Group et dans le spatial, vous ne vous dites pas par exemple que pour certains éléments, comme le fait des Airbus par exemple, qu'on pourrait produire certaines pièces en Chine ou en Inde, dans des pays où les coûts sont plus bas ?
La délocalisation industrielle atteint certaines limites à partir du moment où toutes les parties critiques et sensibles d'un lanceur doivent rester en Europe pour avoir cet accès indépendant à l'espace. C'est une question de souveraineté, c'est une question d'indépendance européenne et il y a une compétition entre les continents, entre le continent américain, le continent chinois, les parties russes et l'Europe doit avoir son accès indépendant à l'espace et donc doit maîtriser les technologies et c'est bien entendu une limite à une délocalisation significative de sujets techniques pointus, ce qu'on ne souhaite pas faire.
Une fois monté, l'étage supérieur et l'étage principal du lanceur seront transférés par bateau en Guyane, à Kourou, pour l'assemblage final de la fusée au CSG, le Centre Spatial Guyanais, d'où partent les lanceurs européens, comme l'italienne Vega, la russe Soyouz et bien sûr Ariane. Là aussi, les procédés ont été complètement repensés. Du coup, la campagne de tir avant lancement final va passer de 30 à 10 jours pour Ariane 6. Grâce à une simplification des opérations, les opérations qui seront concentrées sur un seul site, à commencer par le BAL, le bâtiment d'assemblage lanceur, qui sera désormais juste à côté du pas de tir. Nicolas Lyonnais, architecte lanceur pour Ariane 6.
L'idée, c'est vraiment, et ça a été très très important sur Ariane 6 dans la façon de travailler, c'est que dès le départ sur la conception des moyens, on a pris en compte les exigences lanceurs très très en amont pour avoir une mise en œuvre à coût réduit sur le récurrent.
Alors justement, on est ici en Guyane, au Centre Spatial Guyanais. Il fait très chaud, beaucoup d'humidité, et on est sur le chantier du BAL où sera finalisé l'assemblage de cette future Ariane 6. Est-ce que vous pouvez un peu nous le décrire, ce BAL ?
Donc c'est un bâtiment qualifié de bâtiment léger, et ça c'est très important dans sa conception, puisqu'en fait c'est un bâtiment qui abrite une chaîne d'intégration à l'horizontale. Et donc le fait de pouvoir faire cette intégration à l'horizontale évite les ponts lourds imposés par les intégrations à la verticale. Et de fait, sans ces ponts lourds, on n'a pas de descente de charge dans le bâtiment. Donc déjà, en coût de développement, le bâtiment horizontal va coûter beaucoup moins cher. Ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est que sur un bâtiment beaucoup moins élevé, puisque là on est sur une hauteur de 20 mètres par rapport à un bâtiment Ariane 5 qui va osciller entre 60 mètres pour le BIL et 85 mètres pour le BAF, ben en fait, en coût récurrent sur la mise en œuvre de la climatisation à l'intérieur, on divise par deux. Donc ces deux raisons fortes nous ont fait choisir cette intégration et cette mise en œuvre à l'horizontale. Et on va rentrer dans le détail pour voir vraiment les moyens qu'on a développés pour pouvoir y arriver. Et pour le faire, on s'est appuyé sur des industriels qui venaient de développer les chaînes d'assemblage du Airbus A350 à Toulouse. Et du coup, on a profité de ces développements, on a profité de ces compétences, et ce qui nous permet d'avoir des cycles de développement très courts et de répondre à cet objectif de développement global très très compressé par rapport à Ariane 5. On a pratiquement divisé par deux le cycle et le temps de développement. Moyens et lanceurs confondus, puisque maintenant, comme je disais, les deux marchent ensemble. On fait plus de dissociation, il n'y a pas de frontière étanche entre les deux. C'est un système de lancement qui est optimisé. Et ce système de lancement, il inclut toute la mise en œuvre du lanceur, évidemment.
Le pas de tir, lui aussi, a été totalement revu. Principale innovation, le portique. Un bâtiment roulant métallique de 90 mètres de haut, dans lequel se fera l'assemblage final de la fusée. Sébastien Munoz, chef de chantier au CNES, le Centre National d'Études Spatiales.
Donc là, on est devant la table Ariane 6, qui est enfouie de 2 mètres dans le massif de génie civil, autour duquel il y a un déluge qui permet d'éviter les réverbérations acoustiques au décollage lanceur. Donc ce déluge vient sous le lanceur.
Déluge d'eau.
Déluge d'eau, oui, tout à fait. Et donc, en fait, là, on observe donc deux pylônes sur des palettes de transfert et palettes de table, posées sur la table, et la table est réglée. Là. Donc, on a le plan de pose du lanceur Ariane 6, aujourd'hui, est parfaitement réglé, donc on peut réceptionner cette partie-là.
Juste pour expliquer, cette table, c'est ce qui permet de... métallique, hein, cette table métallique permet de connecter la fusée.
Voilà, donc la table métallique, elle permet déjà de supporter le lanceur, donc de poser dessus. C'est aussi ça qui supporte le décollage. Et cette table permet de raccorder au procédé fluide cryogénique et au procédé conventionnel qui permet de ventiler le lanceur, permettent de raccorder tous les fluides et permettent également de raccorder l'électrique qui est nécessaire pour dialoguer avec le sol jusqu'à ce que le lanceur décolle. Et à l'arrière, là, on voit le portique qui est en cours de bardage et qui est en cours de finition au niveau des plateformes mobiles, toutes les plateformes d'accès autour du lanceur. Lui, il est en position arrière, c'est un deuxième poste de travail qui est en position arrière. Donc là-bas, on est en train de barder, de régler les plateformes, de monter la cage d'ascenseur, d'équiper tous les moyens d'accès au lanceur et de réceptionner le pont roulant qui va nous permettre dans une semaine et demie de venir hisser le corps central avec le portique amené au-dessus de la table. Il n'a pas encore été jusque au-dessus de la table et là il arrive au-dessus de la table la semaine prochaine.
Le portique mobile qui permettra de finaliser l'assemblage de la fusée.
Parce que c'est un portique qui fait 50 mètres de large par 50 mètres de long, donc un demi-terrain de football à sa base, qui permet donc de rentrer le fardier avec les propulseurs à poudre de chaque côté de la table de lancement, qui est fixe. Le portique qui fait 7000 tonnes en charge d'exploitation, c'est-à-dire tout équipé avec les plateformes mobiles et tout dans le portique, ça fait 7000 tonnes. Donc il fait 90 mètres de haut et il circule sur 140 mètres. Et donc ces 7000 tonnes, c'est comparable à... Bon, c'est pas exact, il faut prendre ça en termes d'idée d'échelle de grandeur. Donc c'est la tour Eiffel qui serait sur des roues et qui se déplacerait. Alors pas en hauteur, puisque c'est un tiers de la tour Eiffel en hauteur, mais c'est comparable à la masse de la tour Eiffel.
C'est un véritable bâtiment roulant, c'est impressionnant.
Ah là, c'est vraiment c'est l'équipement qui nous permet d'assurer les 5 jours d'opération en ZL. C'est grâce à ce portique mobile qu'on devrait pouvoir optimiser les opérations Ariane 6 sur le pas de tir ULA 4.
Alors qu'avant, les opérations qui étaient faites, les mêmes opérations qui étaient faites pour Ariane 5, se faisaient dans un immeuble en dur.
Oui, tout à fait. Donc sur Ariane 5, pour opérer ce qu'on va faire sous ce portique-là, ULA 4, il fallait 2 bâtiments sur Ariane 5. Le bâtiment d'intégration lanceur et le BAF. Là, on fait tout en zone avant. La seule chose qu'on fait dans le bâtiment d'assemblage lanceur, qui est un deuxième bâtiment, c'est d'assembler à l'horizontale le corps central. Mais tout le lanceur, une fois que le corps central est assemblé, tout le lanceur est assemblé sur le pas de tir à l'aide de ce portique mobile.
Et du coup, on gagne du temps car il n'y a plus les opérations de transfert très longues hein, sur rail avec des gros camions.
Tout à fait. Donc l'activité est optimisée du fait qu'il y a moins de zones, donc pas de transfert avec une table mobile du lanceur dans les différentes zones, donc pas de connexion, déconnexion de la table. Donc tout ça, c'est des simplifications qui nous conduisent à ne raccorder le lanceur qu'une seule fois, à l'assembler complètement qu'une seule fois et à pouvoir revenir dessus pour corriger des choses. Et donc on optimise ainsi les opérations de l'ensemble du pas de tir.
Si le premier lancement d'Ariane 6 est prévu au deuxième semestre de cette année, il y a donc urgence pour l'Europe spatiale qui fait grise mine. En effet, l'année dernière, elle n'a effectué que 9 lancements, ce qui la classe en troisième position derrière les États-Unis et surtout la Chine qui arrive en tête avec 34 vols. Un constat qui s'explique en partie par la baisse du marché des satellites de télécommunications sur le vieux continent, mais aussi par le fait qu'Ariane 6 n'est pas un lanceur réutilisable, contrairement à son concurrent américain SpaceX. Mais l'Europe y travaille déjà, selon Jean-Marc Astorg, le directeur des lanceurs au CNES, le Centre National d'Études Spatiales.
La concurrence a changé. Elle était plutôt à l'est il y a quelques années. Aujourd'hui, elle est à l'ouest, en Californie en particulier. Aux États-Unis, vous avez tous les lanceurs possibles. On parle souvent d'un lanceur particulier, mais les États-Unis développent 3 lanceurs commerciaux donc qui sont sur l'ensemble des gammes des technologies possibles pour les lanceurs. Donc vous avez raison de souligner qu'il y a un lanceur qui est partiellement réutilisable aux États-Unis, qu'Ariane 6 ne l'est pas. Nous avons fait ce choix délibéré pour arriver rapidement sur le marché, puisque Ariane 6 a été décidé en 2014, arrivera sur le marché en 2020. En 6 ans, il n'était pas possible de développer un lanceur réutilisable. On sait que l'effort nécessaire pour rendre un lanceur réutilisable est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui nécessite beaucoup de budget. C'est quelque chose que l'on prévoit plutôt pour l'après Ariane 6. Et Ariane 6 arrivera rapidement sur le marché avec des baisses de coûts qui sont substantielles. Et on avait besoin de remplacer Ariane 5 par un nouveau produit très rapidement.
Alors, est-ce que vous, malgré cette concurrence américaine et la mise en place de fusées réutilisables, est-ce que vous y avez tout de même pensé au CNES ou vous vous êtes laissé prendre de vitesse?
Le CNES a toujours travaillé sur les lanceurs réutilisables. Si vous voulez, un lanceur, il faut entre 2 et 3 ans pour le construire et il sert pendant une demi-heure et ensuite ces différents éléments retombent dans l'eau. Donc on voit bien que c'est pas satisfaisant et qu'il faudra trouver une façon pour réutiliser partiellement ou totalement un lanceur. C'est une raison évidente pour réduire les coûts. Le fait est qu'on a eu une démonstration qu'on pouvait le faire par une technique particulière qui consiste à réutiliser les moteurs du premier étage pour revenir sur Terre se poser. On prend acte effectivement de ce résultat. Et pour ce qui concerne l'après Ariane 6, bien entendu, on va travailler sur ces solutions-là pour les appliquer sur les nouvelles générations de lanceurs. Moi, je dirais qu'il me semble évident que la réutilisation, c'est le futur des lanceurs. Et c'est une façon de réduire les prix. Et ça, on y croit depuis toujours.
Si Si l'avenir passera inévitablement par des lanceurs réutilisables, pour garantir son succès, Ariane 6 devra avoir plus de lancements institutionnels de la part de l'Europe. En effet, aux États-Unis, il représente la moitié du marché, notamment grâce aux satellites militaires. Stéphane Israël, PDG d'Ariane Espace, la branche commerciale des lanceurs européens.
Ariane 6 a été pensée donc en 2013-2014 pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que l'Europe voulait se doter d'un lanceur qui était capable de mieux répondre à ses besoins institutionnels. Ariane 5 est un lanceur magnifique, mais Ariane 5 est un très gros lanceur et vous avez beaucoup de satellites institutionnels qui n'ont pas besoin de toute la puissance d'Ariane 5 et donc pour lesquels Ariane 5 n'était pas parfaitement adapté. Et donc en 2013-2014, avec Ariane 6 et avec sa petite sœur Vega C, les Européens ont dit « nous allons avoir deux fusées qui vont pouvoir envoyer en orbite l'ensemble de nos satellites, que ce soit des satellites de navigation comme les Galileo, d'observation de la Terre, des satellites de télécommunication institutionnelle, des grosses missions scientifiques. On avait là des lanceurs qui pouvaient déployer l'ensemble des satellites européens. Et le deuxième sujet, c'était de mieux répondre à un marché de plus en plus concurrentiel, où les prix se sont effondrés, il n'y a pas d'autre mot, donc d'avoir un lanceur moins cher. Et Ariane 6 est 40% moins cher à produire et à mettre en œuvre qu'Ariane 5. Donc, lancer tous les satellites de l'Europe avec sa petite sœur Vega C et être fondamentalement moins cher pour mieux adresser le marché.
Alors l'une des différences, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de lancements institutionnels, notamment dans le domaine militaire, ce qui permet de maintenir l'activité et la rentabilité des lanceurs américains. Est-ce que vous, aujourd'hui, en Europe, vous avez obtenu des garanties afin qu'Ariane 6 puisse être pérenne dans les prochaines années pour avoir au moins une dizaine de lancements par an?
Avec Ariane 6, le projet fondamental, c'est de pouvoir lancer davantage les satellites de l'Europe. Et là, je dois saluer les progrès qui ont été accomplis. Les Européens ont de plus en plus envie de lancer avec des lanceurs européens, Ariane 6 et Vega C. La France a toujours eu cette envie, mais aujourd'hui, l'Allemagne a cette envie. Il y a eu une loi qui est passée en Allemagne qui affirme cette préférence européenne. La Commission européenne s'est dotée d'un règlement spatial où elle affirme aussi sa volonté de travailler avec les lanceurs européens. Donc on peut répondre que oui, il y a un vrai progrès dans la volonté des Européens de confier leurs satellites à Ariane et à Vega. Ce qui doit encore être confirmé, c'est le niveau de l'ambition européenne. On a eu une très belle réunion à Séville, où les ministres de l'espace se sont réunis et ont décidé de plus de 14 milliards de crédits sur 3 ans. Ça veut dire qu'il y a déjà un très beau niveau d'ambition, mais c'est vrai que comparé aux États-Unis, il y a moins de missions en Europe qu'aux États-Unis. Et nous avons besoin que l'Europe continue d'affirmer son ambition dans le domaine de l'exploration, dans le domaine de la science, dans le domaine de la navigation, dans le domaine des télécommunications, de l'observation de la Terre. Donc je vous ferai une réponse en deux temps. Nous avons de plus en plus une volonté des Européens de lancer avec les lanceurs européens et nous avons besoin que les Européens continuent d'avoir envie de davantage de missions institutionnelles. Il faut absolument que les Européens aient le plus possible de missions institutionnelles, pas simplement pour nous, mais tout simplement parce que l'espace aujourd'hui est une réponse adaptée aux grands défis du 21e siècle. Les grands défis du 21e siècle, c'est la sécurité, c'est le changement climatique, c'est la connectivité, c'est aussi évidemment la volonté de toujours mieux connaître notre positionnement dans l'univers. Et là, évidemment, l'espace apporte des réponses uniques.
Top, à 0-20 secondes. Largage de ma VKMO, allumage de la distance, allumage à lance de l'énergie. Attention.
Ariane 6, l'Europe spatiale contre-attaque, un reportage d'Hakim Kasmi avec Annie Brault et Jean-François Braun à la réalisation. Nous sommes en compagnie de nos deux invités, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et André Hubert Roussel, vous êtes PDG d'Ariane Group. Alors, première question pour vous. Le lancement d'Ariane est prévu pour le second semestre de cette année. À partir du mois de juin, les délais seront-ils tenus?
Alors, nous entrons effectivement dans la dernière ligne droite. Nous avons vécu une année 2019 déjà passionnante avec la qualification des deux moteurs qui ont été exposés dans le reportage. Nous avons également énormément progressé sur la conception, la validation de la conception du lanceur. Le pas de tir, évidemment, également, qui est important, a énormément avancé. Donc, cette année, nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite. Nous avons deux rendez-vous extrêmement important avant le premier tir. Le premier, c'est à Lampolshausen en Allemagne, dans les sites du DLR, pour l'essai de l'étage supérieur. On a parlé pendant le reportage du moteur Vinci, qui doit équiper ce deuxième étage. Et ben, il est prêt, il est à Brême, il a été, intégré. Et puis, nous avons également la rencontre du lanceur avec son pactyr en Guyane, donc à peu près en milieu d'année, où nous apporterons Ariane 6 pour la première fois sur le pas de tir conçu par le CNES pour vérifier que tout se passe bien. Et tout ça doit nous amener, j'irai d'ici la fin de l'année, dans le courant du deuxième semestre, au premier vol d'Ariane 6.
Frédéric Vidal, donc de tenir comme ça les délais, d'avoir donc ce nouveau lanceur européen Ariane 6, c'est important pour tenir dans ce climat d'hyperconcurrence face à la Chine, face aux États-Unis.
Oui, c'est essentiel et ça a été rappelé lors de la conférence des ministres à Séville. L'accès souverain à l'espace est quelque chose qui est extrêmement important. Alors évidemment, quand on pense accès souverain à l'espace, on peut penser satellite militaire, mais pas uniquement. Quand on pense que plus de la moitié des données que le GIEC analyse pour nous informer et nous proposer des solutions sur le changement climatique viennent de l'observation depuis l'espace, on voit bien à quel point il est important que l'Europe, qui n'est pas climato-sceptique fort heureusement, eh bien puisse conserver cet accès à l'espace. Donc c'est une souveraineté extrêmement importante. Et puis je ne parle pas de tous les usages qui peuvent être faits à partir des données de l'espace, qui sont aussi très importants pour le développement économique de nos pays.
Une question d'Hakim Kasmi.
Alors cette souveraineté, elle est très importante, vous le disiez, pour que l'Europe ait son indépendance. Est-ce que vous, justement, en tant que ministre en charge du spatial avec vos homologues européens, vous allez aussi mettre les moyens? Car l'entendait, hein, Stéphane Israël le disait, le problème par rapport aux États-Unis, c'est le manque de lancement institutionnel qui permet aussi de garantir la pérennité de l'entreprise.
Alors tout d'abord, ce qui était très important, c'était de réussir la conférence de Séville que j'avais l'honneur de co-présider avec mon homologue portugais Manuel Etor. Et c'était déjà de faire en sorte que l'Agence spatiale européenne ait les financements nécessaires, notamment en ce qui concernait les lanceurs. C'est un petit peu plus de 2,2 milliards d'euros sur les 14,4 milliards d'euros qui seront consacrés aux lanceurs. Et puis, effectivement, l'objectif, c'est que nous puissions avoir des tirs institutionnels. Ça a été rappelé dans le reportage par Stéphane Israël. Le vote du Bundestag a été essentiel en cela. La Commission européenne prépare une résolution en ce sens. Et puis, il nous faut évidemment travailler aussi sur le prochain budget spatial européen, avec une ambition que nous portons à 16 milliards d'euros pour ce budget. Et là, il s'agit donc d'utiliser les lanceurs pour Copernicus, qui est donc le système d'observation de la Terre pour le changement climatique, et aussi pour Galileo. Galileo, c'est en fait ce qui devrait être le nouveau nom du GPS, puisqu'aujourd'hui, dans nos téléphones, dans les véhicules, eh bien le système qui est utilisé, c'est le système Galileo, le système européen, et de moins en moins le système GPS. Galileo, c'est plus d'un milliard d'utilisateurs, et c'est plus de 30 millions d'utilisateurs supplémentaires par mois.
André Hubert Roussel, une question pour vous sur ce développement industriel d'Ariane 6. On l'a entendu, il y a une course pour réduire les coûts, pour avoir un lanceur qui soit moins cher, 40% moins cher qu'Ariane 5. On l'a entendu, il y a des avancées technologiques. Il y a aussi, au niveau donc de la masse salariale, un plan social chez vous, 2300 postes qui sont menacés?
Alors, il n'y a pas de plan social chez Ariane Group. Effectivement, nous adaptons nos effectifs à la réduction du coût d'Ariane 6. Et effectivement, nous accompagnons ce changement et cette part des départs naturels. Et aujourd'hui,
non
ce
remplacé.
Plan étant non remplacé. Voilà, exactement. Donc, ça n'est pas un plan social. C'est
un plan de départ volontaire.
Des gens non plus. Ce sont des gens qui partent en retraite. Ce sont des gens qui, évidemment, veulent poursuivre potentiellement d'autres carrières à l'extérieur d'Ariane Group. Et pour l'instant, ce plan se déroule comme prévu, de façon à nous permettre effectivement d'atteindre les coûts qui sont prévus à l'issue de ce développement.
Comment se déroule ce plan justement en cours? Il a été annoncé en 2018.
Alors il se passe de façon tout à fait naturelle. J'ai fait la tournée d'un certain nombre de sites d'ailleurs en ce début d'année pour dire que nous avions, atteint la cible telle qu'elle était prévue à la fin de l'année 2019. Nous avions même d'ailleurs dans ce plan prévu d'évolution de nos effectifs, prévu d'embaucher 50 personnes pour pouvoir quand même maintenir, un certain nombre de compétences absolument essentielles à l'entreprise. Finalement, nous avons embauché plus de 200 personnes les départs qui ont pu avoir lieu de personnes en pré-retraite ou vers d'autres projets à l'extérieur d'Ariane Group, particulier chez nos maisons mères.
C'est un enjeu essentiel aujourd'hui d'être compétitif face à SpaceX, face à tous ces autres lanceurs.
Alors c'est vrai qu'on
c'est un enjeu en fait vital quelque part pour Ariane 6.
C'est absolument vital pour Ariane 6. C'est vrai qu'on l'a rappelé, la particularité européenne, c'est que nous avons assez peu de missions institutionnelles comparées, à nos concurrents chinois par exemple. L'année dernière, 34 lancements 100% institutionnels. Nos concurrents américains, 27 lancements de mémoire, 70% institutionnels. Nos concurrents russes, 22 de lancement, 100% institutionnel, voilà, j'en passe, et des meilleurs.
En
Europe, nous en avons fait 9, dont 7 purement commerciaux, donc uniquement 2 institutionnels. Donc c'est vrai que nous sommes très dépendants à ce marché commercial et il nous faut absolument capturer ces parts de marché pour rester viable, en termes de système de lancement et garantir l'accès autonome à l'espace à nos États membres.
Hakim Kasmi.
Alors le message est passé pour la ministre, Mme Vidal. Autre question, aujourd'hui, concrètement, les deux fusées vont cohabiter jusqu'en 2022. Il faut terminer les lancements d'Ariane 5, puis ensuite Ariane 6. Concrètement, avez-vous des garanties aujourd'hui en termes de lancement? On a parlé de l'emploi tout à l'heure, mais là aussi, il est important pour vous d'avoir des commandes pour maintenir cet objectif de 12 lancements par an.
Alors effectivement, et c'est d'ailleurs tout ce à quoi s'emploie Ariane Espace, et d'être capable de faire cette prospection à la fois sur le marché institutionnel et sur le marché commercial pour Ariane 6 et pour Vega C, qui est le petit frère, si je puis dire, de la petite sœur d'Ariane 6, avec là encore, grâce à ces deux lanceurs, une couverture à la fois en termes d'orbite et en termes de charge utile, qui nous permet de répondre à l'ensemble des besoins. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui est très important, mais c'est aussi une planification qui se fait entre la France et l'ensemble des États qui sont impliqués, majoritairement l'Allemagne et l'Italie pour Ariane 6 et pour Vega C, avec les industriels, de manière à ce que nous ayons cette feuille de route commune pour la construction d'Ariane 6 et l'extinction, si je puis dire, d'Ariane 5.
Alors André Berroussel, question pour vous cette fois, je me tourne vers vous. On l'entend, Ariane 6 aura 40% de coûts en moins, mais ce lanceur ne sera pas réutilisable. Pour quelle raison ne pas avoir créé directement un lanceur réutilisable? Est-ce que vous y avez cru au début ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, les États-Unis veulent le faire, mais ils n'y arriveront pas, car il faut rappeler que SpaceX, votre concurrent, est une entreprise jeune par rapport à vous.
Oui, tout à fait. Alors, déjà sur la réutilisation, ça a été bien expliqué par Jean-Marc Astorg, le directeur des lanceurs du CNES. La France et l'Europe y ont travaillé depuis de très très nombreuses années pour étudier sa viabilité. Et jusqu'à présent, l'intérêt économique par rapport à aux besoins de nos institutions n'était absolument pas démontré. D'ailleurs, nos amis américains qui avaient développé la navette spatiale, qui est un lanceur réutilisable, n'a jamais pu être présent sur le marché commercial de par sa non-compétitivité. Il est vrai que là, SpaceX semble avoir trouvé, la martingale pour, réussir à trouver un intérêt économique. Alors, il faut le rappeler, avec un nombre de lancements extrêmement important, avec un objectif qui est celui du lancement d'une constellation qui s'appelle Starlink, avec plusieurs centaines, voire milliers, de satellites à mettre en orbite.
Jusqu'à 30 000 satellites,
voilà.
Selon SpaceX.
Et donc, le système de lancement conçu par SpaceX est effectivement très optimisé pour pour gérer le lancement de cette constellation Starlink et a trouvé tout son intérêt. C'est vrai qu'en Europe, jusqu'à présent, de par la versatilité d'ailleurs qu'on demande également, ou la polyvalence que l'on demande à Ariane 6 et qu'elle va réaliser, hein, il n'y a pas que la compétitivité prix, il y a aussi la capacité à réaliser, gérer les différentes missions qui lui sont demandées, aller sur la Lune, aller sur Mars, aller, j'irai, porter toujours des satellites géostationnaires, lancer des constellations, lancer Galiléo.
À des orbites plus basses, les constellations qui sont très proches de la Terre.
Qui sont des orbites extrêmement différentes.
Entre 350 et 500 km seulement de la Terre, c'est extrêmement proche.
Voilà, donc jusqu'à présent, la meilleure solution, et en tous les cas, ça a été pris d'un commun accord, je dirais, entre tous les États membres, et en particulier les agences spatiales et l'industriel Ariane Group, de développer Ariane 6 pour aller vite vers cette nouvelle polyvalence.
Frédéric Vidal, je voulais vous demander par rapport à ces histoires de constellations, donc de l'Internet de l'espace, c'est un enjeu à la fois commercial mais aussi stratégique, c'est pour aussi nos données à notre indépendance en tant qu'Européens ?
Absolument, c'est essentiel, hein, les questions de télécommunications et les questions de sécurité aussi qui sont liées à ces télécommunications, c'est aussi un enjeu important. Je voulais peut-être juste rajouter quelque chose sur SpaceX parce qu'on pense souvent à SpaceX comme une start-up. SpaceX, c'est d'abord un moteur, le moteur Merlin, qui a été fourni par la NASA.
Par la NASA, oui. Développé donc par l'argent public américain.
Voilà, donc c'est effectivement une start-up, on va dire, extrêmement subventionnée.
Elon Musk derrière tout ça, et Tesla aussi.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a aussi besoin d'une offre concurrentielle sur les lanceurs, c'est-à-dire que SpaceX ne peut pas être le seul lanceur sur le marché. C'est juste inconcevable, y compris d'ailleurs pour le marché commercial. Donc il y a besoin de cette offre, il y a besoin qu'elle soit diversifiée. C'est pour ça que effectivement Ariane 6 a été pensée et conçue pour venir justement répondre à ce besoin concurrentiel. Et puis il faut bien penser que un nouveau lanceur, c'est aussi énormément de développement, et c'est pour ça que nous avons aussi, entre le CNES, l'agence spatiale française, et Ariane Group, créé une sorte d'incubateur de technologie de rupture qui s'appelle ArianeWorks, et où les meilleurs ingénieurs travaillent ensemble pour penser les ruptures technologiques de demain. C'est toujours la même chose en recherche, si je puis dire, hein. Il faut toujours prévoir bien à l'avance, de manière à rester compétitif et à rester parmi les leaders mondiaux du monde du spatial. Je crois qu'il faut quand même rappeler cela.
Et Frédéric Vidal, vous qui êtes donc ministre de la Recherche, donc un enjeu majeur pour rester compétitif, pour rester à la pointe de cette technologie. On a là un rapport parlementaire d'une députée de La République En Marche qui parle du développement de la technologie quantique, donc l'étude des atomes, des électrons, qui porte beaucoup d'espoir pour l'avenir, notamment pour favoriser des ordinateurs beaucoup plus performants que ce que nous avons aujourd'hui, pour les calculs, d'autres applications également. Et ce rapport parlementaire demande de multiplier par 3 le financement aujourd'hui accordé à cette recherche. On en est où ? Est-ce que vous avez une réponse à apporter ?
Alors effectivement, c'est le rapport de Paola Fortezza qui nous a été remis en interministériel, hein, puisque c'est un rapport qui intéresse à la fois le ministère des Armées, le ministère de l'Économie et des Finances, mon ministère et Cédric O pour la partie numérique. Nous avons décidé effectivement de prendre en compte ce rapport qui est extrêmement intéressant, qui est le fruit de très nombreuses auditions. Je salue d'ailleurs aussi les co-rapporteurs qui ont participé à la rédaction de ce rapport. Cette task force, elle va avoir pour objectif d'avoir l'ensemble des ministères, l'ensemble des financeurs aussi, BPI France, le secrétariat général à l'investissement, de manière à ce que nous puissions coordonner les choses. Sur la question du quantique, il y a énormément de questions qui se posent. L'ordinateur quantique en est une, mais aussi la façon dont on pense les algorithmes qui seront utilisés par ces ordinateurs, et aussi la façon dont on imagine pouvoir se protéger potentiellement de cyberattaques générées par ces forces de calcul absolument extraordinaires. Et voilà, et je parle pas des matériaux particuliers, etc. Donc énormément de recherches, des briques technologiques qui sont prêtes et qu'on doit accompagner vers le marché, et puis de la recherche très amont qui est nécessaire. Donc nous allons travailler à préparer ce plan sur le quantique.
Une question d'Hakim Kasmi.
André Berroussel, aujourd'hui, pouvez-vous nous dire à quoi ressemblera la future, celle qui viendra après Ariane 6, est-ce qu'on aura un véritable gap technologique, une véritable rupture par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui?
Alors ça, je ne sais pas encore à quoi elle ressemblera. Nous y travaillons d'ailleurs avec le CNES et les autres agences européennes, en particulier au sein d'ArianeWorks, hein, puisque l'objet d'ArianeWorks, c'est de développer en particulier la réutilisation, un démonstrateur de réutilisation d'étages, de façon à pouvoir évoluer vers ça. Mais il est vraisemblable, effectivement, que la prochaine fusée sera déjà beaucoup plus imprimée en 3D qu'elle ne l'est. On a déjà montré que sur Ariane 6, il y avait déjà beaucoup d'éléments qui étaient imprimé en 3D, mais là on va être de façon encore plus intensive, j'irai dans ces technologies-là. Elle sera vraisemblablement réutilisable puisqu'on va y travailler dans les années qui viennent pour être prêt à lancer ce développement lorsqu'il sera nécessaire et qu'on aura démontré sa viabilité. Et elle sera certainement encore plus simple que ne l'est Ariane 6 aujourd'hui. C'est aussi un facteur de coût, de la complexité qu'on peut avoir. Par exemple, nous avons 3 moteurs sur Ariane 6. C'est vrai que nous souhaitons essayer d'avoir un seul moteur qui puisse être utilisé sur l'ensemble des étages d'une future Ariane.
Alors on le voit aujourd'hui, il y a un véritable défi. L'année spatiale sera chargée. On voit les États-Unis qui ont mis en place une cyberarmée. L'Europe qui va lancer des missions sur Mars. Quel pourra être votre rôle, vous, justement, dans ces projets qui arrivent très prochainement?
Ariane 6 est prête. Hein. Ariane 6 est prête à réaliser tout un tas de missions, en particulier vers la Lune. En particulier, nous travaillons également avec l'Agence spatiale européenne pour voir comment les futures missions vers Mars pourront bénéficier d'Ariane 6. C'est grâce à sa polyvalence où on pourra, faire et contribuer à l'ensemble des missions qui seront demandées par nos clients.
Et sur les 14,4 milliards d'euros qui ont été engagés lors de la ministérielle ESA, l'Agence spatiale européenne, il y a un volet très important pour l'exploration, justement, parce que l'ensemble des ministres ont convenu qu'il ne fallait absolument pas délaisser la part recherche, connaissance, compréhension, et puis la part exploration qui est quelque part aussi la part du rêve, si je puis dire, du monde de l'espace, du rêve de la conquête de l'espace par l'espèce humaine. Et je crois que c'est très important aussi que l'on soit capable d'expliquer à l'ensemble de nos concitoyens à quel point l'espace joue un rôle fondamental pour notre avenir et pour l'avenir de la planète. On a parlé des télécommunications, on a parlé de l'observation de différents critères qui nous permettent de surveiller le réchauffement climatique, mais on oublie par exemple que c'est aussi à partir de l'espace que l'on peut, au travers de modèles, faire en sorte que l'utilisation de produits phytosanitaires soit extrêmement réduite.
Concrètement, quand vous disiez les produits phytosanitaires, concrètement?
Concrètement, ça signifie que on peut savoir exactement à quel moment il est judicieux de faire un traitement d'une culture, et tout ça, ce sont les données de l'espace qui nous permettent de le faire, plutôt que de dire, bon, traitons et puis regardons ce qui va se passer après. Donc je crois qu'il faut avoir vraiment la vision la plus globale possible de tout ce que l'espace peut nous apporter très concrètement aujourd'hui dans la société, et puis de tout ce qu'elle peut nous apporter comme tout ce que l'espace peut nous apporter comme connaissance de façon générale. Et ça, bien sûr, c'est sur cette base qu'on construit l'avenir toujours.
Et si je puis me permettre, Madame la Ministre, également la navigation,
absolument.
Les véhicules autonomes qui arrivent, voilà, c'est absolument essentiel. Et l'Europe, grâce à Galileo, est absolument leader sur ce sujet-là.
Voilà. Il faut bien voir que traditionnellement, ce qu'on dit, c'est que le GPS permet de savoir dans quelle rue nous sommes. Galileo permet de savoir sur quel trottoir et de quel côté de la rue, ce qui est quand même mieux quand on veut avoir des véhicules autonomes. Et donc c'est un véritable leadership qui est développé au travers de Galileo pour tout ce qui est mobilité autonome, par exemple.
Très rapidement, la ministre, à partir de quand Galileo, justement, sera-t-il utilisable à 100%?
Alors, Galileo est d'ores et déjà utilisé, comme je vous le disais tout à l'heure, par plus d'un milliard d'utilisateurs, et ce nombre augmente à chaque mois. Et donc, le prochain programme de l'Union européenne permettra de déployer Galileo dans sa totalité.
Parce qu'il y a encore des satellites qui doivent partir pour le rendre efficace à 100%.
Absolument, et d'ailleurs, il est prévu qu'il puisse utiliser
Ariane 6. Tout à fait.
Merci à vous, on arrive à la fin de cette émission.
Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous Frédéric Vidal, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Merci à vous André-Hubert Roussel, président exécutif d'Ariane Group. Cette émission donc, Ariane 6, l'Europe spatiale contre-attaque. Le grand reportage de cette semaine était signé Hakim Kasmi, à la réalisation Annie Bro et Jean-François Beaune, et avec Dali Yaha à la technique. Un grand merci aussi à l'équipe de la documentation d'actualité de Radio France. Merci aussi à Nadia Hadj Bouziane et Nicolas Lyonnais pour la musique. Le grand reportage, c'est à réécouter et à podcaster sur le site internet de France Culture, franceculture.fr.